Bienvenue dans le Club des Hommes en Noir, une émission de débat et d'analyse sans langue de buis ni de bois. Je reçois aujourd'hui dans le studio de l'Homme Nouveau le père Jean-François Thomas, de la Compagnie de Jésus, le père Danziek, chroniqueur religieux, j'allais dire bien connu maintenant, hein, qui s'impose en tous les cas, et l'abbé Hervé Benoît.
Bonjour Philippe.
Prêtre diocésain et recteur du sanctuaire Notre-Dame des enfants. Cette fois-ci, je ne me suis pas trompé. Merci de votre présence, vous êtes venu de loin pour certains, donc merci beaucoup d'être là. Et le laïc de l'étape, je l'avais oublié la fois dernière, on se demande comment d'ailleurs, puisqu'il est inoubliable à sa manière, Olivier Figueras.
Le plus imposant en tout cas. Bonjour Philippe.
Merci cher Olivier de votre présence. Alors le sujet de cette émission, je terminais la fois dernière en disant que la situation du sacerdoce, enfin des prêtres en France, était peut-être en continuité ou en lien avec celui que nous allons traiter, à travers une question que je vous pose d'ores et déjà et qui va ouvrir la discussion. La femme est-elle l'avenir de l'Église aujourd'hui ?
Aragon sort de ce corps.
Expliquez-vous, monsieur l'abbé.
Je crois que vous avez intelligemment fait appel à une chanson ou quelque chose comme ça. La femme est l'avenir de l'homme, n'est-ce pas, hein? C'est un poème.
Ça devait habiter mon esprit de manière
subliminale.
Subliminale et voilà. Inconscient.
Du coup, je suis obligé de répondre à votre question.
Et du coup, oui. Si ça ne vous dérange pas.
Je pense que d'autres le diront mieux que moi, mais il y a quelque chose de très actuel à poser cette question, au plus mauvais sens du terme, c'est-à-dire qu'on remet en cause des certitudes fondamentales, on discute et on secoue des vérités antiques et solennelles et éternelles. Et voilà, je pense qu'il faut une fois de plus revenir aux fondamentaux pour savoir que voilà, l'homme et la femme ont leur place pleine et entière dans l'Église. Et le tout est de trouver l'articulation entre ces deux vocations fondamentales de l'être humain.
Alors, ce que vous venez de dire me pousse à préciser pourquoi j'ai voulu qu'on traite de ce thème. Et puis, je vous redonnerai la parole aux uns et aux autres après. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, de plus en plus, notamment dans les médias catholiques, mais aussi à travers l'appareil synodal qui est en place ou qu'on a vu s'exprimer en Allemagne, des revendications se font de manière constante dans un climat culturel beaucoup plus large et d'ailleurs de féminisme et de revendications féministes pour aller vers le diaconat des femmes, voire pour ouvrir le sacerdoce. La porte du sacerdoce, en tous les cas, aux femmes. Et c'est dans ce cadre général, que vous connaissez aussi bien que moi, que n'importe qui, en fait, parce que c'est constant. Il n'y a pas un jour sans qu'on pose cette question, comme une évidence. Elle va arriver demain. Enfin, la réponse va arriver demain. C'est juste une question de temps et de patience. Voilà. Mais je repose ma question pour les autres. Est-ce que la femme est l'avenir de l'homme? Et je donne par exemple la parole.
La femme est l'avenir de l'Église. Deux considérations. La première, c'est que je crois que formuler la question de quelque sorte que ce soit, de dire qu'est-ce que c'est que l'avenir de l'Église? Est-ce que ça serait les jésuites? Est-ce que c'est l'univers traditionnel?
C'est le présent de l'Église.
Est-ce que c'est la synodalité? Enfin, je crois que c'est... Moi, je suis toujours assez gêné par cette façon, cet esprit de système.
C'est une fois qu'il me fait ce coup-là.
Cet esprit de parti.
Ou de journalisme.
Non, mais enfin, en fait, l'Église a les paroles de la vie éternelle, donc l'avenir de l'Église, c'est le Christ et la fidélité au dépôt révélé contenu dans l'enseignement de l'Évangile et des apôtres et des successeurs des apôtres. Première chose. Donc la femme est-elle l'avenir de l'Église? La femme n'est pas plus l'avenir de l'Église que l'homme. C'est la fidélité au Christ qui est l'avenir de l'Église. Deuxième considération. Évidemment, dans les circonstances actuelles, ça a été déjà suggéré un peu par l'abbé Benoît, pourquoi pose-t-on la question? Est-ce que la femme serait-elle l'avenir de l'Église? Parce que le prêtre, homme blanc, célibataire, serait lui, potentiel abuseur, serait le signe de la banqueroute de l'Église. Vous voyez, c'est cette sorte d'opposition sous-jacente.
Ça joue beaucoup aujourd'hui, ça.
Évidemment, joue beaucoup. L'autre, là, j'ai lu un interview de Frédéric Becbédé dans le Figaro Magazine, qui a écrit, qui n'est pas docteur de l'Église, mais qui a écrit un ouvrage assez intéressant qui s'appelle « Confession d'un hétérosexuel légèrement dépassé ». Et on voit combien aujourd'hui être homme, aimer, enfin être homme pleinement homme, c'est-à-dire aimer la nature féminine, aimer les femmes, aimer la vie, etc., est déjà suspect de vous êtes un potentiel raciste, beauf, plouc, si vous voulez. Voilà. Donc il y a un peu ça, c'est cette idée dans la société rejaillit y compris dans l'Église, où si vous êtes prêtre, ça veut dire que vous aimez le pouvoir, vous aimez l'argent, vous êtes autoritaire, vous êtes clérical. Et donc non, en fait, la femme est l'avenir de l'Église en tant qu'elle est fidèle à sa vocation de femme. C'est-à-dire celle qui donne de la cordialité, qui donne de l'amour, qui donne de la vie aussi à sa place, et qui est au service toujours, comme l'homme est au service quand il est protecteur, quand il apporte de la sécurité, quand il incarne un esprit de décision, une orientation. Voilà. Donc déjà, je pense qu'il faut prendre un peu de haut cette question, qui a toute sa pertinence, mais ne se laissant pas intimider par les idéaux présents, progressistes de la pensée postmoderne, là, ou déconstructivistes, ou à dire que la femme est en fait est vraiment meilleure que l'homme, ou l'homme meilleur que la femme, c'est peu m'importe en fait.
Très bien, merci Père Danziek. Je me tourne vers le Père Thomas.
Oui, alors
qui sourit.
Si vous écrivez femme avec un F majuscule. La femme qui écrase le serpent sous son talon, oui, là, la femme est l'avenir de l'Église, évidemment. Mais sinon, ce sont tous les baptisés qui sont l'avenir de l'Église, les futurs baptisés qui sont l'avenir de l'Église. Donc réduire, en effet, l'Église à telle ou telle catégorie, ça n'a pas beaucoup de sens. Et puis, je pense que c'est une mode qui passera comme les autres. Dans les années 70-80, ce qui était très à la mode, c'était de vouloir exiger pour les prêtres la possibilité de se marier. Mais alors évidemment, maintenant, le mariage, c'est considéré comme quelque chose de totalement ringard et traditionnel. Donc,
ça n'a pas complètement été abandonné comme revendication.
Mais ce n'est plus tellement dans l'air du temps, tout de même.
Il n'y a plus que les homosexuels qui veulent se marier.
Voilà. Donc maintenant, c'est la femme qui a été mise au premier plan. Mais comme on arrive à une période également de crise en ce qui concerne les sexes, l'homme, donc, on le rejette totalement, la femme sera, et elle commence à l'être, elle commence à être rejetée. Donc ce sera autre chose, sans doute, qui sera mise en avant. Quoi qu'il en soit, pour ce qui nous intéresse, c'est vrai que le synode sur la synodalité va sans doute se retrouver en présence de ce type de questions provenant en tout cas d'un certain nombre de pays, mais pas de tous. Hein. Ce n'est pas quand même le sujet essentiel, la préoccupation essentielle de bien des catholiques dans le monde. Mais c'est un sujet qui sera mis sur la table que celui de l'ordination des femmes. Ouais.
Mais c'est souvent des minorités très actives qui portent les sujets qui entraînent un certain basculement.
Très actives, mais aussi vieillissantes.
Peut-être, effectivement. Olivier Figueras, comme laïc et homme, parce que je sais qu'on va me faire le reproche de ne pas avoir invité de femmes.
Mais non, personne ne vous a fait le reproche.
Pas ici.
Mais on l'a tous pensé. Mais
mais donc aujourd'hui, j'ai invité un homme comme laïc.
Mais justement, pour parler des femmes, il n'y a pas mieux qu'un homme, je suppose.
Comme laïc.
Eh bien, il y a deux niveaux de réponse, il me semble. Il y a la réponse de fond dogmatique à laquelle... malgré quelques prélats progressistes qui essayent de lancer parfois des hameçons pour voir si quelqu'un mordrait, mais ne bouge pas, enfin que ce soit sous Paul VI ou Jean-Paul II, avec la lettre apostolique Ordinatio Sacerdotalis en 94, la réponse est
là,
toujours...
Là, vous parlez précisément de l'ordination...
Pour l'accès des femmes au sacerdoce.
Mais je vous posais la question de manière plus générale... Est-ce que la femme est l'avenir de l'Église ?
Ah, de manière plus générale.
On va y venir.
Écoutez, si vous parlez de la Vierge Marie, oui, elle est le signe qui nous conduit, qui est sans doute un des plus beaux exemples que l'Église peut suivre. Est-ce que la femme est plus que l'homme l'avenir de l'Église ? Je ne vois pas pourquoi il y aurait une question sexiste dans ce débat. L'Église, elle progresse.
Parce qu'il semblerait que pendant longtemps, l'Église ait mal considéré les femmes et qu'elle les ait réduites à des rôles subalternes.
Bah, historiquement, c'est faux.
C'est un mythe. Voilà, je me permets de renvoyer à cet égard à un petit livre magnifique qu'avait rédigé le père Bouillet en son temps sur la vocation féminine, que j'ai relu en venant ici et qui... Alors c'est incroyable de voir à quel point rien n'a changé, puisque le débat était déjà exacerbé lorsqu'il l'a écrit. Je ne me rappelle plus à quel moment, mais ça devait être dans les années 70. Et à quel point il montre que historiquement, jamais la femme n'a été mieux traitée que dans le judaïsme et le christianisme, que la théologie du rapport de l'homme et de la femme enracinée dans la création et dans leur vocation éternelle sous le regard d'un Dieu Père n'a jamais été plus approfondie et trouve son sommet dans la figure de la Vierge Marie. Donc voilà, c'est un mythe qu'il faut... Je me demande même si ça vaut la peine d'en débattre quelque part, à tel point... Ça n'a pas de sens pour l'Église, vous voyez.
Il faut peut-être... Nous, on n'en débat pas, mais pour l'expliquer à ceux qui nous regardent...
Oui, parce que c'est quand même... Oui. Dans le climat culturel dans lequel on glisse, c'est récurrent, quand même.
Oui, bien sûr. Bah, moi, je pense qu'une fois de plus, l'abbé Danziek l'a évoqué, c'est dans un regard sur l'anthropologie profonde voulue par Dieu, la vocation de l'homme et de la femme, c'est dans le retour à cette formation, à cet enracinement dans la révélation qu'on répond à votre question, en la complétant, en écartant ce qu'elle a d'actualité qui sera dépassée, comme disait le père Thomas. Voilà, retrouvons à cet égard l'enseignement du pape Jean-Paul II. Alors on peut dire que l'enseignement de l'Église n'était peut-être pas à une époque suffisamment élaboré dans le domaine de l'anthropologie, dans son aspect féminin, dans son aspect masculin, peut-être. Mais en tout cas, pour ce qui est des générations d'aujourd'hui, voilà, il faut se replonger dans l'enseignement de l'Église, peut-être plus particulièrement dans l'enseignement du pape Jean-Paul II, et peut-être répondre à votre question en rappelant cette formule magnifique qu'avait eu Jean-Paul II à Lourdes lors de son dernier voyage, en s'adressant aux femmes, et en leur donnant ce titre si émouvant, si profond, et puis, comme on dit aujourd'hui, si interpellant, « Vous êtes les sentinelles de l'invisible ».
Oui, c'est très beau. Oui.
Et ça, c'est magnifique. Et tout est dit de la vocation féminine dans cette phrase.
Père Danziek, vous voulez préciser quelque chose ?
Ça, c'est très juste. Par rapport à l'enseignement de Jean-Paul II, il a quand même écrit aussi un long texte, une lettre apostolique sur Digneris Mulieritatis, la dignité de la femme, qui est très beau. Moi, je m'étais appuyé sur ce texte pour une retraite pour des jeunes filles, et c'est vrai que c'est très puissant. Sur les considérations historiques, quand on prend la reine Clotilde avec Clovis, qu'elle mène quasiment par le bout du nez en concordance avec Saint-Rémy, quand on voit toutes les reines qu'il y a eu dans l'histoire de France et leur rôle politique présent, quand on voit comment a été traitée Édith Cresson, la première femme Premier ministre, donc sous le deuxième mandat de François Mitterrand, elle explique aujourd'hui que ça a été très très compliqué pour elle, avec tous les caciques du Parti Socialiste, qui pourtant, hommes de gauche, n'ont pas manqué de misogynie à son endroit. Donc historiquement, d'ailleurs, je l'ai cité lors de la dernière émission, mais Patrick Buisson, dans son dernier livre, explique bien que la Révolution française, au départ, a été faite notamment contre la femme, contre Marie-Antoinette, contre la traînée de Versailles. Enfin, donc je crois qu'on n'a pas du tout à rougir, nous, chrétiens, dans l'histoire catholique, de la haute estime qu'on a de la valeur féminine, notamment dans sa puissance de maternité, encore une fois, tout ce que Jean-Paul II a expliqué en sentinelle de l'invisible, donc cette sorte de veilleuse dans la vie familiale, dans l'équilibre, la paix sociale. Voilà, je crois que c'est très important de le souligner.
Oui, et puis il faut puiser dans la richesse de la tradition de l'Église, qui est là à notre disposition. En ce qui concerne la vie mystique, les femmes ont une importance considérable, une place très importante. Alors évidemment, bon, la plus connue sera sans doute Sainte Thérèse d'Avila par la plupart des auditeurs. Mais plus proche de nous, il y a une femme qui a été canonisée, qui est Sainte Edith Stein, Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, qui, avant d'entrer au Carmel, a beaucoup écrit sur les femmes, sur la femme, et a milité, avant même de se convertir au catholicisme, alors qu'elle était juive et qu'elle prenait de la distance avec le judaïsme, qui a milité pour ce qu'on appellerait aujourd'hui le droit des femmes, et à juste titre, parce que, bon, à l'époque, les femmes n'avaient pas le droit de voter, par exemple, si on considère que le vote est important, évidemment. mais elles n'avaient pas le droit non plus, et Edith Stein a été la première à avoir un doctorat de philosophie en Allemagne en tant que femme. Elle n'a pas eu le droit d'enseigner dans une université allemande parce qu'elle était femme. Donc il y avait bien évidemment des injustices, mais des injustices qui provenaient justement de sociétés qui n'étaient plus christianisées ou qui n'étaient pas catholicisées. C'est vrai qu'en France, on voit l'évolution à partir de la Révolution et le statut de la femme au XIXe siècle qui est absolument catastrophique, mais qui est en totale régression, y compris au sein de l'Église, par rapport à ce que vivait la femme du Moyen-Âge ou même de la Renaissance. Donc il est bon de reprendre des textes, pas simplement des textes écrits par des hommes, pour le coup, mais des textes écrits par des femmes, et on se rend compte que les femmes qui sont vraiment avec une âme chrétienne et qui sont ces sentinelles de l'invisible ne sont pas dans une démarche féministe, mais dans une démarche pour donner à la femme toute sa place, mais rien que sa place au sein de l'Église.
Juste prolonger en disant à quel point le Code Napoléon, comme l'a bien présenté le professeur Xavier Martin, a été une régression terrible, voire terrifiante, sur le statut de la femme dans la société française, et qu'il a fallu en sortir. Mais sans cette logique qui aurait voulu qu'on sorte aussi de tous ces pseudo-acquis de la Révolution.
Oui, on sorte aussi du reste, effectivement. Mais le statut de la femme, ça sert complètement dans cette logique.
Ah ben là,
dite des Lumières, oui.
Ah oui, où la femme est infantilisée totalement.
Quoi. Ernest Renan a un commentaire sur le Code napoléonien pour dire combien c'était une très grave régression sur la question de la femme et la question de l'homme, et sur la question du vote des femmes. C'est très justement souligné. Faut se rappeler, et pour ceux qui nous regardent encore une fois, faut le redire, je sais que vous tous, vous le savez ici, mais que c'est vraiment le fait de la gauche que les femmes n'ont pas eu le droit de vote parce que c'était le parti de l'Église. Hein. C'était vraiment le parti de l'Église. Et toute la pensée radicale socialiste, tout le Front populaire, etc., c'est absolument opposé à essayer de freiner au maximum le droit de vote des femmes parce que les femmes, elles étaient les aficionados des curés. Donc c'était celles qui les plus conservatrices. Voilà. Donc, ça, c'est aussi intéressant.
Elles allaient prendre leurs consignes de vote au confessionnal.
Alors j'ai coupé tout à l'heure Olivier Figueras qui abordait la question, à juste titre d'ailleurs, mais on y vient maintenant, de l'ordination, la possibilité de l'ordination des femmes. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas, pourquoi plus exactement le sacerdoce ministériel n'est-il pas accessible pour les femmes, puisque c'est l'une des revendications qui court à nouveau aujourd'hui. Alors Olivier, vous aviez cité un texte de Jean-Paul II, je crois, sur ce sujet.
Oui, l'Ordinatio Sacerdotalis,
qui date de quelle année ?
De 1994, et qui remet, j'allais dire, les pendules à l'heure en rappelant la doctrine catholique, tout simplement, si je puis dire. Et d'ailleurs, il y avait eu au moins un dubium, un doute qui avait été présenté, alors je ne saurais plus dire par qui, mais l'année suivante, la Congrégation pour la doctrine de la foi avait répondu, en la personne du cardinal Ratzinger, qui à l'époque en était le patron, en disant ben, « cette question appartient-elle au dépôt de la foi ?» Et il avait répondu « oui ».
Oui, ce n'est pas juste une question disciplinaire.
Voilà,
ça relève véritablement du dépôt de la foi.
Du dépôt de la foi, donc après, on peut discuter le dépôt de la foi, mais à ce moment-là, j'aime bien que certains ont tendance à prendre l'Église pour une auberge espagnole où on prend un peu de ceci, où on apporte un peu de cela, mais c'est particulier d'ailleurs à l'Église catholique. Dans les autres confessions religieuses, on se garde bien de prétendre qu'il faudrait changer ceci ou admettre cela.
Ce texte, merci Olivier, ce texte du pape Jean-Paul II, c'est celui qui règle vraiment de manière définitive la question. Vous me regardez tous avec un sourire, oui, même si oui. Je posais une question complètement idiote.
Officiellement, oui. Officiellement, ça règle
Le pape François vient de le rappeler, d'ailleurs.
Ça clôt la question, officiellement. Mais on voit bien qu'il y a encore des voix, et je pense qu'il y en aura toujours, des voix, y compris parmi la hiérarchie épiscopale, qui essaient de remettre en cause ce qui est fixé, en effet, comme dépôt de la foi, et qui est fixé par le plus haut magistère.
C'est très intéressant ce que vous venez de dire en soulignant qu'il y en aura toujours de ces voix. Est-ce que, parmi les saintes femmes qui entouraient Jésus puis les apôtres, il y a eu des revendications de ce type ?
Alors, pas des revendications de ce type, mais on sait qu'il y avait des revendications de la part de certaines femmes autour de Jésus, à commencer par la mère de Jacques et Jean.
Pour
ses fils. Mais quoi qu'il en soit, c'était une revendication féministe. Mais ça veut dire que...
Pas féministe.
Maternelle, j'allais dire.
Maternelle. Ça veut dire que la femme avait du poids, quand même. Elle avait la parole,
mais
en
ma
tout cas.
Question, c'est est-ce que... Enfin, qui est un peu... un peu pédagogique, mais est-ce que ces saintes femmes ont revendiqué de devenir à l'image des apôtres,
alors,
évêques
rien n'est présenté comme ça dans les évangiles, mais ouais. on va vous dire que ce sont les évangélistes qui ont fait le tri, hein, c'est ce qui est présenté par les féministes comme ça. Mais il y a quand même une femme qui a reçu le titre d'apôtre des apôtres, c'est Sainte Marie-Madeleine. Voilà, donc ce n'est pas rien. Et c'est quand même elle qui a eu le privilège d'avoir... la première apparition, peut-être après la Très Sainte Vierge, la première apparition de notre Seigneur ressuscité, et qui est chargée d'évangéliser les apôtres.
Oui, la place des femmes dans les évangiles est assez claire. Ce sont les seules au pied de la croix. Elles accompagnent, y compris de leur denier, l'œuvre du Seigneur. Elles sont restées fidèles. Elles sont les premiers témoins de la résurrection. Donc elles ont une place éminente, et le père Bouillet, dans son petit ouvrage, avec beaucoup d'humour, présente ces choses sur lesquelles, il y a, en tout cas à l'époque du Christ, comme on dirait aujourd'hui dans le langage moderne, on ne mettait pas en cause l'assignation de genre, chacun avait sa place, et
justement,
les saintes femmes ont eu leur mission particulière, et c'est ce que dit le père Bouillet et d'autres à leur suite, et tout l'enseignement de l'Église, c'est que la mission particulière des femmes leur donne une égalité de dignité et de présence, mais qui n'est pas une identité par rapport à la vocation masculine et apostolique. Et que vouloir confondre les deux et les mélanger, c'est mélanger les gens, c'est donc mélanger la création. Et donc, ça n'a pas de sens.
Est-ce qu'il est normal, pardon, de dépendre d'un contexte culturel qui s'explique très bien à l'époque du Christ, mais qui n'a plus rien à voir avec... le contexte culturel d'aujourd'hui.
Contre-culturel, plutôt, d'aujourd'hui.
Oui, mais sauf que les évangiles...
On vit avec des mœurs, avec une culture, dans un type de civilisation auquel on ne peut pas faire abstraction complètement.
Bien sûr. Non, on ne peut pas
abstraction, mais aujourd'hui, l'anthropologie est tellement une contre-anthropologie que, même si elle est massive, on aurait bien tort de s'y laisser prendre. Et il me semble qu'il n'y a pas seulement le fait de confondre les identités, mais aujourd'hui, il y a vraiment la volonté de dresser l'une contre l'autre. Voilà. Et sous ce regard-là, je pense que les textes sacrés, les évangiles, nous expriment un peu cette saine complémentarité qui a toujours été l'apanage de l'enseignement de l'Église sur l'altérité sexuelle et la complémentarité homme-femme. Et moi, j'aime beaucoup, vous voyez, la partie de l'épître de saint Paul où il présente ses vierges et il dit « Je vous jalouse de vous marier spirituellement à un Christ si grand, si beau, si magnifique. » Et finalement, évidemment, que c'est une femme pourrait tout à fait dire « Ah, je vous jalouse, vous, homme, de pouvoir devenir prêtre, et comme une petite fille peut jalouser son petit frère de pouvoir servir la messe, par exemple. » Parce que nous tenons ici à ce que le service de messe soit accompli juste par des petits garçons ou des jeunes hommes.
Et mais, pourquoi, justement ?
Mais parce qu'il y a une identité, un continuum entre le service de l'autel et la fonction sacerdotale qui est tenue elle-même par un homme qui est prêtre. Voilà, donc ça, c'est très important. Et cet émerveillement, en fait, je pense qu'il est tout à fait justifié qu'une jeune fille ou une mère de famille puisse être émerveillée qu'un prêtre puisse célébrer la messe, mais comme moi, je suis tout à fait émerveillé qu'une femme puisse porter la vie. Et sous un certain rapport, je me dis, bah, ça doit être merveilleux de porter la vie dans son sein. Et je ne vais pas vouloir devenir un homme enceint. C'est leur prérogative, et c'est merveilleux, et c'est une chance, un privilège qui leur appartient dans le dessein de la création. Et je m'émerveille plus que je ne jalouse. La jalousie, ça vient du diable. Enfin, c'est...
Père Thomas, et puis ensuite, Olivier et Figueras, vous voulez prendre
décidément,
la parole.
Décidément, comme la semaine dernière, un autre compliment en m'appelant le Père Thomas. J'en rougis encore davantage que la semaine dernière.
Excusez-moi, mon père.
Non, c'est juste pour peut-être compléter et terminer par rapport à votre question. Il y aurait aussi un tort grave à séparer le culturel de l'anthropologique, si vous voulez. Les institutions juives voulues par Dieu dans l'économie du salut, elles ont leur importance et la place de la femme dans la civilisation juive, dans la culture dans laquelle baignent Jésus et les apôtres, elle n'est pas totalement diabolique, si vous voulez. Elle est aussi le fruit, non mais elle est le fruit de la révélation. Et donc la place de chacun et le choix des apôtres et la place des saintes femmes, elle n'est pas purement culturelle. Elle l'est pour une part, certainement. On ne peut pas faire, on ne peut pas imaginer que les apôtres n'aient pas été parce que méditerranéens, voilà, parce que hommes un peu machistes, c'est clair. Mais n'empêche qu'au-delà des aspects, je dirais, un peu épisodiques, et puis, voilà, la culture ne se sépare pas de l'anthropologie, me semble-t-il. Donc l'argument, ben, il faut renvoyer en disant, mais oui, mais la culture, quel est son sens anthropologique? Qu'est-ce qu'on va en garder? Qu'est-ce qu'on va en enlever? Et donc, voilà, je pense que c'est dans cette direction-là, encore une fois, qu'il faut creuser le sillon et revenir sur ces questions qui se posent et qui se reposeront, évidemment.
Merci, monsieur l'abbé Benoît. Que cette fois-ci, je
merci,
me trompe pas.
Philippe Maxence.
Olivier Figueras.
Merci
vous
beaucoup.
Vous vouliez prendre la parole.
Mais j'abonde évidemment dans tout ce qui vient d'être dit par les très honorables membres de cette assemblée.
C'est un synode.
Je voulais observer que j'ai lu un certain nombre de textes de revendications, d'associations, etc. Je trouvais ça un peu rasoir parce que ces textes n'ont pas grand-chose de bien passionnant en dehors de leurs revendications. Mais premièrement, si tel était le cas, il me semble qu'effectivement, si l'Église était sexiste, je ne sais pas comment ces hommes supportent depuis si longtemps que la première personne de la création soit une femme. Ce qui n'est quand même pas la preuve d'un blocage à ce niveau-là. Et puis deuxièmement, à longueur de ces pétitions, on lit que le Christ a agi ainsi pour une raison culturelle, ce que nous venons d'évoquer. Très bien, mais alors, s'il n'y a que la question culturelle, ça veut dire qu'on considère juste le Christ comme un homme et que la vision divine là-dedans disparaît, parce que la culture divine, c'est quand même quelque chose d'assez particulier, et ça ne s'étend pas à une époque. Donc si le Christ n'est plus vu que comme un homme qui avait ses idées à une époque donnée, je ne sais pas si l'Église présente encore un grand intérêt.
Oui, bien sûr. Face à la permanence, effectivement, de la vision divine. Père Thomas, là, je ne me trompe pas.
Oui.
J'ai peur que oui, l'inverse ne soit jamais le cas.
Je sens une souffrance.
Pardon. C'est la souffrance du clergé de César. Voilà.
Elle durera autant que les jésuites.
Oui, en fait, le problème de la femme, si problème il y a au sein de l'Église, est à mettre en lien, je trouve, avec quelque chose de plus vaste, qui est la remise en cause doctrinale en général. Et si on ne comprend plus quelle est la place de la femme dans l'Église, c'est parce que la christologie, notamment, elle-même est en crise. Donc si on considère que le Christ n'est qu'un homme, un homme certes bien meilleur que les autres, une sorte de prophète, d'homme plus ou moins parfait, cela remet en cause aussi la vision que l'on a du sacerdoce. Puisque dans l'Église catholique, et ça c'est de tradition multimillénaire, le prêtre est in persona Christi, donc il prend la place du...
C'est très transgressif de dire ça aujourd'hui.
Il prend la place...
Oui, c'est devenu transgressif.
Oui, il est le Christ quand il célèbre. Donc, mais si on remet en cause la divinité du Christ, ensuite, tout part en morceaux. Donc, on en arrive ensuite, au bas de l'échelle, à remettre en question aussi l'anthropologie. Tout se tient dans, dans la doctrine et dans la foi de l'Église. Tout se tient.
Dans son texte sur la vocation féminine, Jean-Paul II, alors je vais résumer, donc je vais un petit peu caricaturer, mais ce que j'avais retenu, et effectivement qui peut servir très heureusement de support à une prédication quand on s'adresse à un public féminin, en gros je retenais, si vous voulez, Jean-Paul II dit aux femmes, votre dignité est telle, en tant que sentinelle de l'invisible, porteuse de la vie, image de la création et de cette vie reçue dont la Vierge Marie voilà, est le sommet par sa maternité et sa virginité, eh bien, la fonction sacerdotale dans ce qu'elle a d'opérative, si vous voulez, laissez-la aux hommes, ils ne sont pas inférieurs, mais ce sont des êtres, voilà, ils s'occupent de ça, mais le plus beau, la plus belle des vocations, c'est la vôtre. Sans évidemment. Mais il y a une espèce d'argument pour dire votre part est la meilleure, elle ne vous sera pas enlevée. Laissez le sacerdoce et la fonction sacerdotale aux hommes comme lot de consolation. Voilà. Je caricature, évidemment, hein,
j'espère,
mon révérend père.
J'espère que vous caricaturez.
Oui, parce que ce soit l'autre consolation,
Non, mais je veux dire, alors je retire le mot l'autre consolation. Je dis
dommage,
simplement.
Les femmes allaient retirer leurs revendications.
Voilà, mais je pense qu'il y a quelque chose de ça en disant aux femmes, votre vocation comme sentinelle de l'invisible, comme image dans votre maternité, etc., et dans la virginité consacrée, il y a quelque chose d'essentiel qui ne peut pas manquer à l'Église, et donc chacun son rôle. Voilà. Et dans une période qui tord par la revendication féministe, eh bien, il faut peut-être insister pédagogiquement davantage sur ça, sachant que la théologie du sacerdoce, elle a été largement approfondie. Voilà.
Mais on reste quand même dans un cul-de-sac, puisqu'on vous dira que cela provient en fait des hommes, et que c'est de la poudre aux yeux. C'est une sorte de compensation, et on fait croire aux femmes que...
Oui, c'est
pour ça que c'est un piège, à mon avis. Je ne sais pas si Jean-Paul II a vraiment dit les choses telles que vous les avez présentées, je vous crois volontiers. Mais de commencer à dire, alors bon, puisque on a l'impression qu'il y a une infériorité de la femme par rapport à l'homme, maintenant on va faire marche arrière et dire qu'il y a une supériorité de la femme par rapport à l'homme. Ça me semble très dangereux.
Je ne pense pas que dans son esprit, il y ait marche arrière. Il y ait approfondissement. Par l'approfondissement de votre vocation propre, vous les femmes, vous allez découvrir la plénitude de ce que Dieu vous demande qui conduira à la réalisation totale de votre féminité.
Oui, mais qui n'est pas supérieure à la vocation de l'homme. Chaque vocation a sa place propre, mais on n'est pas ici dans une hiérarchie de vocation.
Non, je suis d'accord. Ça, ce n'est pas du Jean-Paul II. Ça, mais
est-ce que je peux vous conduire quand même à une question un peu plus précise sur un des aspects qu'on doit traiter? Si l'ordination sacerdotale donc, a été réglée par ce texte de Jean-Paul II, enfin, qui est un texte de rappel finalement de la tradition de l'Église, est-ce que le diaconat est accessible aux femmes? Le pape François ne s'est pas prononcé, par exemple, sur ce sujet. Il semblerait que ça reste une porte ouverte. On évoque beaucoup l'existence au début de l'Église de diaconesses. On a étendu le diaconat de manière importante après le Concile. Est-ce que donc il pourrait s'étendre également aux femmes?
Le père Bouillet aborde la question, mais alors il prend soin d'aborder cette question en appendice de son petit ouvrage. Moi, je pense que ça dépendrait de la définition et de l'approfondissement et qu'il y ait un peu plus de sérieux dans la notion du diaconat et de sa place par rapport au sacerdoce. Voilà, après, il me semble que dans des périodes difficiles et agitées comme celle-là, la confusion étant telle dans les esprits, il me semble que les choses ne sont pas mûres pour avancer sereinement, éventuellement, dans ce débat. Voilà, mais je pense qu'il est urgent d'attendre, à mon avis.
Donc vous ne fermez pas complètement la porte, si je comprends bien. Père Thomas...
Je me cache derrière le père Bouillet, hein, mais...
En ce qui me concerne, je fermerai totalement la porte, puisque de toute façon, ça fait partie, le diaconat fait partie de l'accession au presbytérat. Et c'est un cheval de Troie. On le voit bien dans les autres confessions chrétiennes. Alors, le problème est un peu différent, parce que l'ordination n'est pas considérée comme un sacrement, par exemple, dans l'Église anglicane, etc. Mais c'est un cheval de Troie. On sait très bien qu'on ne s'arrête pas là. Et dans l'esprit des grands réformateurs, comme était par exemple le cardinal Martini, l'archevêque de Milan, qui a toujours avancé comme pion le diaconat féminin, c'était dans son esprit une première étape. Et ça ne s'arrête pas non plus au sacerdoce.
Mais quel est le lien entre sacerdoce et diaconat ?
Parce que le diaconat ministériel, d'une certaine façon, est l'ultime marche qui conduit, on est ordonné diacre en vue du sacerdoce, et le diaconat permanent qui a été introduit, mais qui est quelque chose de récent, ferme la porte au sacerdoce, mais il est quand même en étroite connexion avec le service de l'autel, avec un service ministériel.
Est-ce si traditionnel que ça ? Dans la tradition patristique, le fait que le diaconat soit une marche de l'accession au sacerdoce.
Alors, en tout cas, une marche, je ne sais pas, mais un lien direct avec le sacerdoce, oui, avec le sacerdoce de l'évêque. Au départ, les diacres, ce sont les assistants de l'évêque. Une participation de l'évêque, et pas simplement pour la charité, contrairement à ce qu'on dit. Mais aussi pour le service de l'autel.
Et les diaconesses, sous ce regard-là, dans les premiers temps du christianisme, étaient...
Baptême.
L'expression elle-même est équivoque, et évidemment, vous l'avez dit vous-même, ça générait beaucoup plus de confusion,
Je parlais d'aujourd'hui.
Oui, c'est ça, plus qu'aujourd'hui, ça générait beaucoup plus de confusion, et on voit, moi, ce qui me gêne, en fait, c'est une sorte de complaisance idéologique à ce type de cheval de bataille. C'est-à-dire que, finalement, on veut absolument... faire en sorte que les femmes aient plus de pouvoir dans l'Église, y compris dans un pouvoir ministériel. Et toujours un peu ces combats progressistes, on a toujours un train de retard. L'Église devient écologique quand l'écologisme aujourd'hui comme doctrine politique est en crise. Elle veut devenir féministe quand aujourd'hui il y a tout un mouvement néo-féministe qui en revient sur la question de la libération de la femme soi-disant par la contraception, où elles s'aperçoivent bien que justement ça fait d'elle en fait un objet de plaisir à usage intensif. C'est la phrase de Chesterton, je crois, qui disait que les féministes pensent devenir libres en servant leur employeur quand elles se croient esclaves en aidant leur mari. Donc c'est assez bien dit, c'est surtout assez bien vu. Il me semble que quand on est, en fait, encore une fois, on revient à ce qu'on a dit, la question anthropologique et la question finalement du plan de la création, quand on est fidèle à sa vocation, c'est là où on est le plus inséré, le plus épanoui, où on donne à sa personnalité toute la plénitude qu'elle mérite dans notre chemin ici-bas qui nous conduit vers le ciel, qui est juste un chemin de passage, mais être fidèle à son état de vie. Voilà.
Alors, je ne vais pas entrer dans la distinction des diaconats. Il me semble en tout cas que dans la discussion actuelle, on est en pleine dialectique, parce que si tant est qu'on accordait un jour aux femmes une sorte de diaconat permanent, à l'image de ce qui peut être fait pour certains hommes, immédiatement, la dialectique, ce serait on reviendrait à dire « Ah ben non, mais le diaconat, c'est toujours en vue du sacerdoce, n'est-ce pas ?» C'est comme ça qu'on fait dans toutes les grandes batailles, que ce soit l'avortement, on dit « Ce sera tant de semaines », et puis une fois qu'on a tant de semaines, on en veut 10 de plus. Il y a toujours une évolution du débat, et on constate ça tous les jours dans n'importe quel débat actuel.
Oui, non, mais je crois que le débat est instrumentalisé.
Mais ça, je crois qu'on est tous d'accord sur l'instrumentalisation du débat. Mais historiquement, il y a bien existé des diaconesses. Donc,
Oui, mais des diaconesses qui étaient là uniquement pour les baptêmes de femmes, puisque c'était le baptême par immersion, donc les personnes étaient plongées nues dans le baptistère.
Donc ce sont les diaconesses qui baptisaient.
Non, elles ne baptisaient pas.
Mais c'est ça que je voudrais vous entendre préciser.
Elles étaient là simplement, en effet, pour... permettre aux femmes de se dévêtir et de se vêtir.
C'était un service liturgique, quand même, inséré dans la liturgie pascale.
Oui, mais pas lié directement
à l'autel,
à l'Eucharistie, oui. C'est ça.
Oui, d'accord. Non, mais
je sais qu'on est d'accord, mais...
Oui, enfin, voilà, moi,
baptême des femmes, uniquement pour le baptême des
femmes.
Par
le respect de la pudeur,
oui.
par pudeur, pardon.
Bien sûr.
Oui, mais elles sont... Ouais, enfin bon, moi, je ne suis pas spécialiste, je ne vais pas me battre là-dessus. De toute façon, le problème aussi, c'est que le diaconat en lui-même, aujourd'hui, les choses ne sont pas claires. Enfin, je veux dire, la place des diacres dans l'Église aujourd'hui...
Des diacres permanents.
Il existe un état de diacre permanent. Donc, mais voilà, il existe, il est là. C'est du bricolage dans les diocèses.
Il est un problème aussi pour les prêtres eux-mêmes. Moi, quand j'en parle avec beaucoup de mes confrères, ils me disent, de toute façon, c'est toujours un problème entre le diacre, qui n'est pas forcément raccord, comme il devrait l'être avec la théologie de l'Église, faute de formation, son épouse, qui ne veut surtout pas qu'il soit présent, parce qu'il veut, elle veut que son mari soit là à 20h, et les réunions, les animations liturgiques, etc., ça commence à bien faire. Eh bien, bon courage.
Voilà. Bien, bah merci. C'est sur ces propos qui nous ouvrent un débat sur le diaconat permanent, mais pourquoi pas, après tout, puisqu'il a été réinstitué ou institué, je ne sais pas ce qu'il faut dire exactement, par Paul VI. En tout cas, on ne l'ouvrira pas aujourd'hui. Merci de vos éclairages et votre regard sur la question que nous avions posée en début de cette émission. La femme, est-elle l'avenir de l'Église ? Merci à vous tous. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission, un nouveau thème, de nouveaux invités. D'ici là, que Dieu vous garde. Au revoir.